Bon, la fois dernière, nous avons parlé d'Abraham. Donc, si Abraham est le modèle de la foi, Isaac peut être défini comme le type de l'espérance, même le type de la résurrection, parce que c'est ainsi que le présente l'auteur de la lettre aux Hébreux, au chapitre 11. Nous verrons que pour la tradition chrétienne, Isaac est le patriarche le plus important. Parce que sa ligature sur l'autel, le fait d'avoir été lié sur l'autel, on appelle ça la Akedah, la ligature, hein? Sa ligature annonce la mort de Jésus. Nous y reviendrons certainement en finale, si le temps le permet. Pour Philon d'Alexandrie, le grand philosophe juif, l'éducation a besoin de trois éléments. Il y a tout d'abord la nature, il y a l'instruction, la formation, et il y a l'entraînement correct, ce que Philon appelle l'ascèse. Ces trois éléments, Philon les identifie avec les trois patriarches. Et Isaac se voit attribuer la vertu naturelle infuse. Né de la promesse miraculeuse, Isaac s'identifie avec la joie. Selon l'étymologie de son nom, et avec la bénédiction qu'il constitue d'après le livre de la Genèse. Son nom n'a pas été changé comme celui d'Abraham. Vous vous rappelez, Abraham, c'était Abraham, Abraham. Et le nom de Jacob aussi a été changé. Tu t'appelleras Israël, mais le nom d'Isaac n'a pas été changé. Isaac n'a pas multiplié les épouses comme l'avaient fait Abraham et Jacob. Philon dira que ces épouses, ce sont les sciences auxiliaires qui amènent à la sagesse. Isaac n'est pas descendu en Égypte comme Abraham et Jacob. Il a joui tout simplement de la présence de Dieu dans la terre d'Israël. Isaac, c'est l'enfant du sourire. Vous direz tout à l'heure, Jésus, nouvel Isaac, c'est un sourire de Dieu pour nous. Isaac, c'est l'enfant que Sarah a eu lorsqu'elle était âgée de 90 ans, car rien n'est impossible à Dieu. Abraham avait 100 ans. C'était le fils qu'il avait désiré toute sa vie. Avec Isaac, l'enfant de la promesse qui a fait rire ses parents, Abraham et Sarah est vraiment le fils attendu. Un jour, Abraham accueille sous sa tente trois hommes qui passent. Et l'un de ces trois personnages réitère l'annonce de la grossesse de Sarah. L'an prochain, Sarah aura un fils. Sarah l'entend, elle rit sous sa tente à cette idée. Peu après le sevrage d'Isaac, Abraham chasse sur la demande de Sarah son fils Ismaël. Fils Ismaël qu'il a eu de la servante Agar, servante égyptienne, pour qu'Isaac n'ait pas à partager l'héritage avec Ismaël. C'est un problème qui est toujours concret. Dieu, nous l'avons vu la fois dernière, a mis à l'épreuve Abraham, lui a demandé de sacrifier son fils bien-aimé, de l'offrir en holocauste sur le mont Moria. Abraham fend les bûches, prépare le bois pour le sacrifice. Il part avec Isaac, avec un âne et deux serviteurs. Après 3 jours de marche, il dit au serviteur de garder l'âne. Il va se prosterner plus loin avec son fils. Il charge Isaac des bûches. Isaac porte lui-même le bois de son sacrifice. À la demande, où est l'agneau qui sera offert en sacrifice? Abraham répond qu'il s'en remet à Dieu. Une fois arrivé, Abraham construit un autel, dispose les bûches, lie son fils au bûcher. Alors qu'il tend la main pour immoler Isaac, un ange crie à Abraham d'épargner son fils Isaac. Un bélier qu'Abraham voit pris au piège dans un fourré et sacrifié à sa place. La fois dernière, nous avons déjà vu la version du récit de la Genèse au chapitre 22 dans la version synagogale, qui ajoute que Isaac lui-même est l'agneau du sacrifice. À noter un tout petit détail. D'après la tradition juive, Isaac, qui monte au Moria, aurait porté sa croix. Il y a deux textes qui l'explicitent, Genèse Rabba et Psikta Rabbati, deux midrashim juifs. Si ce texte est ancien, l'invitation de Jésus en Matthieu 16 à porter sa croix pourrait être antérieure à la Passion et montrer en Jésus la conscience de reproduire à Jérusalem la montée d'Isaac vers le mont Moria. Et lorsque Jésus demande à ses disciples de porter la croix, ce n'est pas du tout un anachronisme ou une relecture tardive de la communauté. Non, la tradition juive appliquait déjà porter sa croix à Isaac qui monte vers le mont Moria. Il semble qu'Isaac, né de la vieille Sarai, fut élevé un peu de façon douillette. Et il mit beaucoup de temps à s'affranchir. Ce ne fut qu'à la mort de son épouse qu'Abraham songea à marier son fils Isaac. Mais il ne voulait surtout pas que ce fût avec une fille des Cananéens, parce que les Cananéens avaient leur culte d'idoles, de faux dieux. Sans doute par fidélité aux inspirations de son Dieu, le Très-Haut, Abraham décida d'envoyer son serviteur fidèle Éliézer chercher une épouse à son fils dans les rangs de sa parenté, dans son pays d'origine. Et il fit jurer solennellement à Éliézer de ne pas choisir ailleurs et de ne revenir qu'après avoir fait tous les efforts pour réaliser son serment. Vous savez qu'on ne jurait pas souvent dans l'Antiquité, parce que cela correspondait quasi à une question de vie ou de mort. Aussi, le vieil Éliézer s'en alla-t-il avec 10 chameaux, avec de nombreux cadeaux, en suppliant intensément le Dieu de son maître de lui être propice. En s'approchant de l'Aram, des fleuves, la haute Mésopotamie, où vivaient les descendants de Nahor, Éliézer adressa à Dieu cette prière que vous avez dans la Bible. « Dieu de mon maître, sois-moi propice aujourd'hui. Montre ta bienveillance pour mon maître Abraham. Je me tiens près de la source et les filles des gens de la ville sortent pour puiser de l'eau. La jeune fille à qui je dirai « Incline ta cruche, que je boive » et qui répondra « Bois, j'abreuverai aussi tes chameaux » sera celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac, et je connaîtrai à cela que tu as montré ta bienveillance pour mon maître. » Jusqu'ici la prière donc de Éliézer. Au même moment se présente Rebecca, la cruche sur l'épaule. Elle n'était pas farouche, elle était plutôt à l'affût de nouvelles, parce que les nouvelles circulaient, c'est auprès des puits en général que les bavardages se continuaient. Quand Rebecca vit ce vieillard fatigué avec ses 10 chameaux, aussi haletant que lui, elle s'approcha. Tout se passa comme la prière d'Éliézer l'avait exprimée au Dieu d'Abraham. La Genèse continue et commente. La jeune fille était très belle, était vierge, aucun homme ne l'avait approchée. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut au-devant d'elle et dit « S'il te plaît, laisse-moi boire un peu d'eau de ta cruche. » Elle répondit « Bois, mon Seigneur. » Et vite elle abaissa sa cruche sur son bras et le fit boire. Quand elle eut fini de lui faire boire, elle dit « Je vais puiser maintenant de l'eau pour tes chameaux, jusqu'à ce qu'ils soient désaltérés. » Vite, elle vida sa cruche dans l'auge, courut encore au puits et puisa de l'eau pour les chameaux. L'homme la considérait en silence, se demandait si le Très-Haut l'avait ou non menée à son but. Vous avez remarqué que de Rebecca, la femme d'Isaac, la Bible dit « elle était très belle », comme Sarah également Rachel, la femme de Jacob. Elle était vierge, aucun homme ne l'avait approchée. Et Rebecca connaîtra comme Sarah et comme Rachel, la stérilité. Toutes les mères d'Israël, très belles et stériles. Isaac implora le Seigneur afin que son sein enfante et que nous connaissions la suite. Deux enfants naîtront, ils se heurteront même dans son sein, c'est Jacob et Ésaü. Pour récompenser la jeune fille de tant de délicatesse, Éliézer, le serviteur, lui fit un cadeau. Un anneau d'or pesant un demi-sicle qu'il mit à ses narines et à ses bras, deux bracelets qui pesaient 10 sicles d'or. Rebecca n'en demandait pas tant pour répondre aux questions du voyageur. « Je suis la fille de Bethuel, le fils que Milka enfantait à Nahor. » Et sans plus, elle l'invita à se rendre chez elle, où il trouverait gîte, nourriture et repos, ainsi que de la paille pour ses chameaux. Décidément, Rebecca pensait à tout. Éliézer comprit que Dieu l'avait choisi et avait conduit chez le neveu de son maître, et cela était de très bon augure. Entre-temps, Rebecca avait fait part à son frère de ce qui s'était passé. Voyant les bijoux précieux que sa sœur avait reçus, Laban eut beaucoup d'égards pour le visiteur, prépara un bon repas pour l'illustre hôte du Seigneur. Mais Éliézer refusa et dit « Je ne mangerai pas avant d'avoir dit ce que j'ai à dire. » Et Laban prit l'initiative en donnant la parole au visiteur. Et celui-ci révéla qu'il était le serviteur d'Abraham. Il expliqua le but de sa visite, rechercher une épouse pour Isaac, le fils de son maître. Il raconta ensuite comment le Dieu d'Abraham avait exaucé sa prière en lui envoyant Rebecca à point nommé. Selon la Bible, Laban et Bethuel prirent la parole de concert pour dire que cela leur paraissait venir de Dieu, mais qu'ils ne pouvaient pas conclure cela de par eux-mêmes. Ils lui dirent que, quant à eux, ils étaient d'accord pour qu'il prenne Rebecca, qu'il l'amène pour qu'elle devienne l'épouse de ce fils de son maître, si telle était la volonté du Très-Haut. Puis seulement on se mit à table, on mangea avec appétit. Tôt le lendemain de cette mémorable soirée, Éliézer se dit prêt à reprendre la route. Il ne voulait pas remettre à plus tard ce que le Très-Haut avait béni si généreusement. Laban et ses parents voulurent retarder le départ de Rebecca. Mais comme elle la connaissait, il revenait à elle de décider. On lui demanda son avis. « Veux-tu partir avec cet homme ?» Elle répondit sur le champ, désireuse du voyage qui l'attirait depuis longtemps. « Oui, je le veux. » Alors il la bénir et lui dire « Notre sœur, toi, deviens des milliers de myriades, que ta descendance conquiert la porte de ses ennemis. » Il ne se doutait pas que leur prière allait être entendue très bientôt du Très-Haut et que par cette décision, Rebecca ouvrait une nouvelle page de l'histoire sacrée d'Israël où elle jouerait un rôle taillé à sa mesure. Je donne tout de suite l'interprétation qu'un père de l'Église, Origène, le fondateur de l'école biblique de Césarée, a donnée. Il y a un très beau commentaire sur le livre de la Genèse. Et voilà ce qu'il dit, parlant de Rebecca. Chaque jour, Rebecca revenait au puits. Chaque jour, elle venait puiser de l'eau. C'est à cela qu'elle dut de rencontrer le serviteur d'Abraham et d'épouser Isaac. Peut-être pensez-vous que ce sont là des fables et que dans les Écritures, l'Esprit Saint raconte des histoires. Il y a là une science, un enseignement spirituel pour les âmes. Vous y formez, vous y apprenez à venir chaque jour au puits des Écritures. Chaque jour, il faut revenir aux eaux de l'Esprit Saint, à y puiser sans cesse, à rapporter chez vous une pleine mesure. Ainsi faisait Sainte Rebecca. Elle n'aurait pas pu épouser le grand patriarche Isaac, né en vertu de la promesse, sans avoir puisé de l'eau, sans en avoir puisé une quantité telle qu'elle put donner à boire non seulement à ceux de sa maison, mais encore aux serviteurs d'Abraham. Et non seulement à boire aux serviteurs d'Abraham, mais à abreuver encore ses chameaux, jusqu'à ce qu'ils cessent de boire de l'Écriture. Tant était abondante l'eau que Rebecca avait puisée. Tout est mystère de ce qui est dans l'Écriture. Le Christ veut vous fiancer à lui, lui aussi. Le Christ vous attend au puits pour conclure un mariage. Et le Christ veut vous fiancer à lui. C'est à lui qu'il s'adresse par les prophètes. Quand il dit « Je te fiancerai à moi pour toujours, Je te fiancerai à moi dans la fidélité, dans la miséricorde. Tu connaîtras le Seigneur. Voulant donc vous fiancer à lui, le Christ vous envoie un serviteur. Et ce serviteur, c'est la parole inspirée. Sans l'avoir reçue, vous ne pouvez pas épouser le Christ. Jusqu'ici, la citation d'Origène, qui est très belle. Son grand-père Nahor lui avait souvent parlé de son frère Abraham, une sorte de mystique, ayant tout quitté pour suivre un Dieu qu'il ne connaissait même pas. Et cela la fascinait. Elle se demandait si un jour, elle ne ferait pas de même partir, chercher, étant sûre qu'on trouve le bout de ses attentes. Elle s'est travaillée de l'intérieur. Elle se demandait quand viendrait le moment de fabriquer, elle aussi, une belle histoire d'amour. Abraham, le frère de son grand-père, représentait pour elle l'idéal de la liberté. Les deux familles n'avaient pas eu de contact depuis la migration de l'ancêtre Terach vers la terre des Cananéens. Toutefois, l'attachement était bien enraciné au cœur de chacun. Il serait déterminant quand les événements l'exigeraient. Entre-temps, bénie du Seigneur, Sarai, la stérile, avait eu un fils. Et elle avait donné à Abraham dans sa vieillesse. De son côté, Milka, l'épouse de Nahor, avait mis au monde 8 enfants, dont Bethuel qui avait engendré Rebecca. La Bible raconte comment Rebecca devint l'épouse d'Isaac. Isaac était âgé de 40 ans. Et quand Isaac eut 60 ans, Rebecca lui donnèrent 2 fils, 2 jumeaux, Ésaü et Jacob. En ce temps-là, le fils aîné de la famille recevait tous les biens en héritage, avec une bénédiction spéciale du père. Et les autres qui suivaient devaient se débrouiller. Comme Ésaü était sorti le premier du sein de sa mère, il fut décidé qu'il était l'aîné et qu'elle lui revenait le droit d'aînesse. Mais cela déplut à Rebecca, qui à maints égards préférait Jacob à Ésaü. Jacob pouvait faire de beaux rêves comme sa mère, tandis que l'horizon des intérêts d'Ésaü planait bas. Ésaü était un homme de la terre. Les préoccupations spirituelles de ses pères, Isaac et Abraham, ne passionnaient guère. Il pouvait tout vendre pour un plat de lentilles. De son côté, Jacob nourrissait des aspirations à quelque chose de plus grand. Et Rebecca, qui avait bien entendu de la bouche de son époux l'histoire du grand-père, Rebecca s'employait à cultiver chez Jacob les désirs de descendance dont Abraham avait tant parlé. Depuis toujours, Rebecca avait cru au rêve d'Abraham, était prête à suivre toutes ses intuitions pour contribuer à sa réalisation. Et elle communiqua ses ambitions à Jacob et le convainquit de troquer le droit d'aînesse d'Ésaü pour quelque chose qui comblerait la cupidité facile de ce dernier. Jacob réussit le coup du plat de lentilles. Le premier pas de la transaction se trouvait réglé. Rebecca se chargerait de mener l'entreprise à bonne fin, au bon moment. Nous avons déjà dit que Isaac avait échappé au sacrifice que Dieu avait prévu pour lui. Alors qu'il devait être immolé, un ange apparaît et demande à son père de stopper son geste pour préserver ce fils unique, ce fils bien-aimé. Et la bienveillance lui fut accordée par Dieu, qui voulait s'assurer de la parfaite dévotion d'Abraham à son égard. Chapitre 26 du livre de la Genèse est question d'une famine au pays de. Et Isaac, à ce moment-là, doit se rendre à Guérar, à la région de Beersheba, Bersabé, où il s'enrichit en creusant un puits. Origène a de très beaux commentaires sur justement les puits que Isaac a creusés, parce que dans le puits, il y a l'eau vive. Et l'eau est le symbole de la parole de Dieu. Il faut toujours creuser, approfondir la parole de Dieu pour arriver à l'eau fraîche. Lorsque Isaac et Rebecca vont à Guérar chez le roi Abimélec, Isaac fait passer Rebecca pour sa sœur Mais Abimélec s'en rend compte et lui en fait le reproche à Isaac. Isaac va s'enrichir, mais les habitants de Guérar le jalousent et comblent ces puits creusés par les serviteurs d'Abraham. Puis, à la demande du roi, Isaac va habiter dans l'oued de Guérar. Origène, de nouveau, commente ce texte. Le puits, c'est le symbole de l'écriture. Et il y a ceux qui sont jaloux qui viennent combler les puits en y jetant de la terre, en y jetant des pierres. Origène dit, la même chose se passe pour l'écriture sainte. L'écriture sainte contient l'eau vive. Et il y a les exégètes qui arrivent, qui jettent leurs propres idées dans le puits et comblent les puits creusés. L'écriture. Et la première chose qu'il faut faire lorsqu'on étudie l'écriture, il faut commencer à purifier, à de nouveau vider toutes les saletés que les exégètes ont jetées dans le puits de l'écriture. Commencez par purifier le puits. Donc Isaac débouche le puits creusé au jour d'Abraham et comblé par les Philistins. Et il va en creuser d'autres, de plus en plus nombreux. Et c'est là qu'il va gagner Beersheba, où Dieu va lui renouveler l'alliance qu'il avait conclue avec son père Abraham. Tandis qu'Isaac vieillit, qui est à moitié aveugle, Rebecca manigance pour qu'il bénisse Jacob à la place d'Ésaü, afin qu'il devienne l'héritier, le chef de la fratrie. Isaac finit par mourir à 180. Rebecca le suivra de près. Ils seront enterrés tous les deux dans le tombeau des patriarches à Hébron. Dans le cœur d'Isaac, éprouvé d'avoir perdu Sarah, sa mère, Rebecca s'est imposée comme une figure essentielle afin de s'acquitter de la volonté de Dieu. Texte biblique qui parle curieusement des rapports entre Isaac et Hagar, l'esclave d'Abraham. Seule une lecture attentive aux significations subtilement enfouies entre les mots, les lignes, permet de le découvrir. Isaac, le fils d'Abraham et de Sarah, reste très attaché à une source d'eau. La source qui a un nom assez curieux, la source du vivant qui me voit. Ça au chapitre 24 du livre de la Genèse. Et cette source est liée à Agar, servante de Sarah et seconde épouse d'Abraham, qui voit un ange lui enjoignant de retourner auprès de sa maîtresse malgré les souffrances qu'elle lui a fait endurer. Agar apprend également de ce messager divin le nom qu'elle devra donner à l'enfant qu'elle porte dans son sein. Et cette source marquée de la présence de cette autre femme, de son demi-frère, devient un site de prédilection pour Isaac. Il y a un exégète juif du 15e siècle qui s'appelle Sforno, qui a un très beau commentaire aussi de ce passage. Isaac choisit de venir prier en ce lieu car l'ange de Dieu s'est révélé à Agar. Et un grand philosophe juif, Nachmanide, un commentaire espagnol, suggère même qu'Isaac demeurait près de ce puits, une zone de prière privilégiée pour Isaac. C'est assez curieux comme interprétation. La décision d'Isaac de se rapprocher d'un espace portant ce nom révèle le choix d'un lien réciproque entre ce patriarche et cette source et Dieu. Agar voit celui qui l'a vu au préalable et est reconnaissante du soutien divin et l'attribue à cet endroit un nom qui marque ce rapport. C'est le surnaturel, l'immatériel, l'absent qui voit l'être divin. Dieu a vu là Agar et elle attache à cette source l'idée d'une présence divine. C'est le puits du vivant. Cet endroit reste l'espace où Dieu voit les humains. Et plus tard, Isaac perdra la vue, mais il pourra continuer de croire que Dieu ne cesse de le voir. Là, ne doit pas s'achever l'interprétation de son désir d'être vu. Et si en fréquentant la source du vivant qui me voit, il voulait aussi se rapprocher de son demi-frère, de cette autre dimension maternelle, mais ce possible désir de lien affectif émanant d'Isaac devrait nous sembler bien moins étrange qu'il ne pourrait paraître à première vue. Sa préférence filiale porte de façon absolue sur celui de ses enfants qui ressemble tant à l'oncle Ismaël, le chasseur d'Ésaü. Je dis que Isaac et sa femme Rebecca ont eu des jumeaux, Ésaü et Jacob, qui sont très différents. Ésaü est roux, poilu, vigoureux, il aime la chasse. Jacob, par contre, est calme et préfère rester sous sa tente. Ésaü étant l'aîné, il doit, selon les règles de l'époque, hériter de son père. Mais Rebecca pense que Jacob sera plus digne de l'héritage, car celui-ci inclut l'alliance conclue entre Dieu et Abraham. Aussi, lorsque vint le moment pour Isaac de donner sa dernière bénédiction à l'aîné de ses fils, Rebecca déguise Jacob pour qu'il soit béni à la place de son frère. Rebecca joua le tout pour le tout, en déguisant Jacob, en le substituant à Ésaü au moment décisif. Isaac, aveugle, n'y vit que du feu. Il bénit généreusement son fils Jacob, ne se doutant pas qu'il offrait au Seigneur le descendant promis, le père des 12 tribus, qu'allait constituer le noyau solide du peuple d'Israël. D'ailleurs, le nom Israël sera d'abord celui de Jacob lui-même. À la suite de sa rencontre avec le Dieu de ses pères, le Dieu d'Abraham et d'Isaac. Un nom venu de Dieu qui dure jusqu'à ce jour. Jacob a ensuite dû s'enfuir pour échapper à la vengeance d'Ésaü lorsqu'il a compris qu'il avait été trompé par son frère. À l'instigation de Rebecca, Isaac envoie Jacob à Aram, dans la maison de Bethuel, épouser une fille de son beau-frère Laban, après l'avoir béni comme successeur d'Abraham. Je dis que la tradition patristique a vu en Jacob la figure du christianisme et en Ésaü la figure du judaïsme. Isaac est surtout connu comme le fils désiré d'Abraham et attendu toute sa vie comme le fils bien-aimé qu'il a accepté de sacrifier. Ce sont là deux aspects qui seront repris constamment dans le Nouveau Testament. Les premières générations chrétiennes ont été sensibles au sacrifice d'Isaac, dans lequel elles voient le type de celui du Christ. Et cette interprétation est très ancienne puisqu'on la retrouve déjà dans l'épître de Barnabé. Et dans le Nouveau Testament, il est peu d'allusions explicites à ce sacrifice. Cependant, un certain nombre d'auteurs constatent l'importance que le sacrifice d'Isaac dans le judaïsme et sa valeur expiatoire. On pensait que la croyance juive avait déjà joué dans l'élaboration de la doctrine de saint Paul sur la rédemption. On va essayer de résumer un certain nombre de points qui appartiennent à la tradition juive du sacrifice d'Isaac à l'époque du Nouveau Testament. Tous les auteurs disent que ce sacrifice d'Isaac a été librement consenti, non seulement par Abraham, le père, mais aussi par Isaac lui-même. Flavius Joseph, l'historien du 1er siècle, dit que Isaac s'est lui-même élancé sur l'autel. Et il y a beaucoup d'autres textes qui le confirment, en particulier le 4e livre des Maccabées, qui présente Isaac comme le modèle des martyrs. Et la première épître de Clément de Rome fait allusion à cette mort volontaire. Et lorsque, parlant du sacrifice du Christ, il s'est offert volontairement, librement. Ça n'a pas été le jeu du hasard. La tradition juive palestinienne considérait le sacrifice d'Isaac comme un véritable sacrifice, bien que le sang n'ait pas été versé. Je dis que ce sacrifice se rappelait la ligature, disait un terme technique, l'akeda, qui vient du verbe akad, lié. Parce que Isaac avait été lié sur l'autel, parce que dans la tradition juive, il avait 37 ans, ce n'était pas un petit bébé. Et les allusions à l'akeda sont innombrables dans toute la littérature juive et même dans la liturgie juive. Et ce qui est intéressant, c'est que cette ligature d'Isaac a eu lieu dans la tradition juive, à Pâques. Et ce Pessah, qui est vraiment intéressant, trouve un sens tout à fait particulier dans ce sacrifice de la Pâque et dans le sacrifice d'Isaac. Pratiquement tous les exégètes sont d'accord pour dire qu'il y a une influence du sacrifice d'Isaac sur la sotériologie de saint Paul. Ce qu'il faut reconnaître sans doute, c'est qu'étant donné la popularité du sacrifice d'Isaac, les conceptions doctrinales que véhiculait sa légende flottaient dans l'air ambiant et pouvaient faciliter l'élaboration d'une théologie de l'expiation. Rappelez-vous le texte de la lettre aux Hébreux. Je l'ai cité au début, au chapitre 11. C'est par la foi qu'Abraham, soumis à l'épreuve, offrit Isaac en sacrifice. Il sacrifiait son fils unique, lui Abraham, qui avait reçu des promesses, à qui il avait été dit, c'est en Isaac que tu auras une postérité de ton nom. Il pensa que Dieu était capable de ressusciter même les morts. Aussi recouvra-t-il son fils, et c'était une parabole, le texte de la lettre aux Hébreux au chapitre 11. Isaac est à la fois le type de la passion et de la résurrection. Le sacrifice d'Isaac a pris une place énorme dans toute la tradition juive et la tradition chrétienne ne s'est pas privée de reprendre tout ça et de faire une lecture christologique, d'appliquer tout cela au Christ. Il y a énormément de textes qu'il faudrait citer ici, mais le temps nous manque. La naissance d'Isaac a été un événement heureux, non seulement pour la maison d'Abraham, le monde entier se réjouit, car Dieu se souvient de toutes les femmes stériles, et en même temps, comme il s'est souvenu de Sarah. Les enfants tinrent et mirent au monde des enfants. Là donc, dans ces perspectives, on comprend mieux certaines exégèses du Nouveau Testament. Si saint Paul avait devant les yeux, lui était fils, il était rabbin, mais disciple de Gamaliel, connaissait toutes ces traditions-là, ce schème de pensée qui fait d'Isaac l'héritier eschatologique de la promesse, comme le type de cet héritier, pour lui sera fondamental. Il le répétera dans la lettre aux Galates, au chapitre 3. C'est à Abraham que les promesses furent adressées et à sa descendance. L'Écriture ne dit pas à ses descendants, comme s'il s'agissait de plusieurs, elle n'en désigne qu'un, et à ta descendance, c'est-à-dire le Christ, pour saint Paul. Et on comprend que dans le quatrième évangile, l'évangile selon saint Jean, le sens du passage où Jésus dit « Abraham a vu mon jour, il s'est réjoui ». Toute la tradition juive avait développé le thème du rire, de la joie au moment de la naissance d'Isaac. Et pour saint Jean, Jésus accomplissait le symbolisme d'Isaac. Saint Jean, lorsqu'il relate le récit de la Passion, soulignera le fait que Jésus lui-même a porté le bois de son sacrifice, comme Isaac avait porté le bois de son sacrifice. C'est dans l'évangile de saint Jean, vous ne trouvez pas la scène de Simon de Cyrène qui donne un coup de main à Jésus pour l'aider à porter sa croix. C'est Jésus qui est présenté exactement comme le nouvel Isaac, le sourire de Dieu pour nous. Voilà donc ce personnage qui est formidable, qui est très différent des autres, parce que son nom n'a pas été changé, il n'est pas allé en Égypte, il est resté en terre d'Israël, et il a permis à la promesse de Dieu de se réaliser. Tout cela, le Christ le portera à sa liberté. La lettre aux Galates au chapitre 3 oppose également à la loi, la promesse. Il oppose à l'esclavage la liberté et à la chair l'esprit, et va opposer également Ismaël et Isaac, comme s'opposent la loi à la promesse, la liberté à l'esclavage et l'esprit et à la chair. Il y a donc de quoi approfondir beaucoup de thèmes. Et la fois prochaine, nous essayerons de voir comment le patriarche Jacob porte de nouveau tous ces thèmes à leur accomplissement. Parce qu'encore une fois, il n'y a pas d'opposition entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Tout cela, c'est l'alliance qui commence avec l'appel d'Abraham qui sera portée à son accomplissement dans la résurrection du Christ. Isaac est déjà une préfiguration de cette résurrection. Si j'avais le temps, je vous lirais tous les textes d'Origène sur les puits d'Isaac. Il a creusé énormément de puits, il a dû les purifier, les nettoyer constamment parce que les Philistins voulaient le chasser, jeter leurs pierres, jeter la saleté dans les puits, comme le font certains exégètes encore aujourd'hui. Il faut commencer à purifier les puits pour que le peuple de Dieu ait l'eau vive de la parole à boire pour qu'il ne meure pas de soif. Voilà. Bonne soirée. Un grand merci à tous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser.
Il n'y a pas de questions pour l'instant, mon père, et c'est avec regret que nous n'aurons pas la joie d'entendre cette lecture du grand Origène.
Non, ça vaut la peine. Vous les trouverez, sont traduits dans la collection Sources chrétiennes.
Coûteuse, mais très belle édition, évidemment.
Oui, très très beau texte, d'une profondeur remarquable. Parce que c'est le plus grand exégète de tous les temps, Origène. Il lui manque une chose, d'être canonisé. Ça viendra peut-être.
Je ne pense pas, mais vous nous direz peut-être pourquoi il ne peut pas être canonisé.
Mais, il y a eu beaucoup de racontars à son sujet qu'ils n'ont pas fondé du tout.
Mais je le découvre en tout cas. Évidemment, nos auditeurs, s'ils peuvent plonger chez Origène pour avoir le goût de la parole et s'émerveiller de l'océan infini qu'il y a dans la parole de Dieu, je les invite fortement.
N'oubliez pas que Rebecca venait chaque jour puiser de l'eau, la crue sur la tête. Il faut revenir chaque jour à l'écriture, non pas une fois tous les mois, mais tous les jours il faut puiser de l'eau, l'eau de la parole qui nous permet de continuer à vivre. Parce que notre corps est fait de 80% d'eau. Donc nous avons besoin de beaucoup d'eau et également de la parole de Dieu qui nous fait vivre.
Plaise au ciel que cette parole.